Il est dessinateur, réalisateur, écrivain et depuis le 7 octobre aussi, journaliste, portraitiste. Bonjour Johann Sfar.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nous vivrons, enquête sur l'avenir des Juifs, c'est l'album que vous venez de publier, 450 pages, résultat des rencontres que vous avez voulu faire en France et en Israël depuis les attaques du Hamas il y a presque 7 mois. Votre histoire personnelle y est aussi, celle d'un Juif français engagé depuis 30 ans pour la cause palestinienne. Alors pour ce projet, vous avez mis entre parenthèses tous les autres. Pourquoi une telle urgence? Il fallait témoigner, il fallait alerter?
Bonjour. Avant tout, je ne savais pas que c'était un livre. J'ai d'abord essayé de donner une voix aux Français de culture ou de religion juive qui étaient autour de moi. Donc je notais ce qu'ils me racontaient, l'augmentation de 1000% des actes anti-juifs après le 7 octobre, avant même le début de la riposte israélienne. Et ensuite, je suis allé en Israël. Je voulais faire parler les gens que je connais là-bas. J'ai toute ma famille paternelle est israélienne et je travaille en Israël dans la télévision. Donc je connais beaucoup de gens, musulmans et juifs. Et j'ai essayé de les faire parler du réel parce que je comprends l'engagement sur le Proche-Orient. Je comprends moins qu'on veuille se couper du réel. Et j'ai tenu à faire des portraits qui ne sont pas résumables en quelques mots.
Et même si le résultat est parfois drôle et touchant, ce qu'il vous raconte ne l'est pas tant que ça, notamment sur ce qui se passe en France. Et sur ce mythe, c'est vous qui le dites, ça, qu'un mythe s'est écroulé en France depuis le 7 octobre, celui qui disait « heureux comme un juif en France ».
Oui, mon grand-père qui venait d'Ukraine disait on fuyait pas seulement les pogroms, on fuyait aussi nos rabbins. Donc le bouclier de fer laïque et républicain français protégeait normalement toutes les minorités. Depuis le 7 octobre, les juifs en France vivent un enfer. Alors je sais qu'on n'est que 0,6% de la population, mais c'est un cauchemar au quotidien et je ne suis pas en train de pleurnicher, je suis en train de dire des faits. Et donc, on ne se sent pas protégé en France, pourtant c'est notre pays, on ne veut pas aller ailleurs. Et j'essaye de parler d'Israël, de parler de la Palestine pour parler des citoyens qui sont perdus là-bas. Mmh. Là-bas, je n'ai pas vu de certitude, j'ai vu du chagrin, j'ai vu des gens qui ont des discours parfois incohérents et j'ai vu des gens qui ne savent pas où ils seront dans 2 mois, dans 6 mois.
Vous dites ils vivent un enfer, qu'est-ce que ça signifie concrètement au quotidien? Pour ceux qui sont visibles, en tout cas.
Ça signifie qu'Israël a pris 140 000 roquettes depuis le 7 octobre, qu'aucun cessez-le-feu n'a rien arrêté, qu'il y a 2 millions de Palestiniens déplacés, 300 000 Israéliens déplacés. Donc ce sont des territoires qui sont à l'arrêt total et avec des gens là-bas qui questionnent même leur pacte social. Ils ne savent plus pourquoi ils sont israéliens, ils ne savent plus à quoi rime cette région. Et j'essaye de leur laisser assez de place pour dire leurs doutes, pour dire le lieu où finalement leur manière de se raconter se ressemble beaucoup.
À propos de ce qui se passe ici, comment expliquez-vous qu'à des milliers de kilomètres du théâtre de guerre, les points de vue se soient à ce point polarisés depuis le 7 octobre? On voit en ce moment la mobilisation des étudiants à Sciences Po ou à la Sorbonne. Ça donne lieu à des débats hystériques sur les réseaux sociaux. Comment l'expliquez-vous?
Moi, je suis déchiré parce que quand je suis arrivé à Paris en 1990, j'étais toujours en fac à discuter avec des rencontres d'étudiants palestiniens et israéliens. C'était très formateur et ça se faisait autour de la même table. Je trouve très bien que les étudiants se préoccupent de ce qui se passe au Proche-Orient. Je regrette qu'il n'y ait pas davantage de débats sur des voix palestiniennes et des voix israéliennes qui viennent échanger sur ce qu'ils vivent au quotidien. Et il y a parfois un refus rageur de s'asseoir avec la personne qui veut la paix aussi, mais qui a d'autres éléments de langage, qui a une autre vision, et je crois qu'on gagnerait à échanger davantage.
Mais c'est quoi le problème? C'est les réseaux sociaux qui hystérisent, qui caricaturent? C'est le fait qu'il n'y a plus d'espoir de paix et de réconciliation, et que les points de vue se radicalisent? C'est quoi? Mais pourquoi ça a tant changé en 30 ans?
Je sais pas. Peut-être les réseaux sociaux, mais c'est pas vrai qu'il y a pas d'espoir. Les voix de la paix sont toujours là. C'est juste que, à cause des canons, évidemment, on les entend pas. Dans chaque camp, il y a un combat aussi contre soi-même, contre la radicalité de chaque camp. Et je crois que le meilleur moyen de militer, d'abord, c'est de lire des livres. Et ensuite, c'est de laisser la place aux voix israéliennes et palestiniennes qui parlent pour la paix, qui ont pas cessé de parler. Simplement, en France, bizarrement, on les entend pas.
Il y a cette phrase en exergue de votre album, l'ennemi ce n'est pas le Palestinien ou l'Israélien, c'est celui qui décide que les enfants ou les civils sont des cibles. Qu'est-ce que ça signifie? C'est une façon de renvoyer dos à dos les terroristes du 7 octobre et le gouvernement qui fait la guerre non pas seulement au Hamas mais à toute une population à Gaza?
Je renvoie jamais les deux camps dos à dos parce que chaque histoire est spécifique, mais il est certain que dans chaque camp il y a une minorité qui voit le massacre comme une opportunité pour modifier la société où ils sont. Et moi je serais toujours là l'avocat de la paix. Je le fais sans aucune naïveté. Je le fais parce que je suis épuisé des narratifs des deux camps que je connais par cœur depuis 30 ans et qui ne mènent nulle part. Donc il faut inventer une nouvelle manière de parler du Proche-Orient. Et ça, c'est dans les mains des journalistes, des historiens, des artistes.
Et vous y contribuez également dans cet ouvrage qui a aussi une partie historique au démarrage, des portraits aussi, je le disais. C'est pas un manifeste, hein, une galerie de portraits. Vous convoquez les anciens, votre père qui vous disait une tragédie, c'est une histoire où tout le monde a raison. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre aujourd'hui, c'est que dans cette guerre, il n'y a pas une vérité, mais au moins deux, et en tout cas plein de nuances dans chacun des camps.
Oui, l'espoir est là, c'est que ce conflit ne dure pas depuis toujours. Il est né à l'écroulement de l'Empire ottoman dans les années 1900-1920. Il s'arrêtera un jour, quand toute la région le voudra, parce que c'est le monde entier qui a fait ce découpage et qui l'a imposé aux Israéliens et aux Palestiniens. On se bagarre avec depuis 70 ans. Forcément que ce conflit trouvera une fin. Il faut écouter les voix qui nous rappellent aussi l'histoire.
On est loin, en tout cas pour l'instant, d'un règlement de ce conflit. Je vais citer encore votre père qui vous disait « Méfie-toi des cons, ils constituent toujours la matière première du fanatisme ». Bah oui, hein. Sacré personnage hein, que ce papa qui transcende les clivages, juif d'Algérie mais favorable au FLN, sioniste et de gauche, un libre penseur.
Mon père était proche de Ferhat Abbas, donc il militait pour l'indépendance des pays arabes et en même temps, il était sioniste et pour lui c'était la même chose. Pour lui c'était deux identités modernes qui étaient nées sur l'écroulement des grands empires. À l'époque ça paraissait tout à fait compatible. Aujourd'hui c'est un peu plus difficile.
Oui, c'est effectivement beaucoup plus difficile. Vous n'avez cessé, notamment dans la bande dessinée qui vous a fait connaître au grand public, en tout cas Le Chat du Rabbin, de dire cette proximité et cette fraternité entre juifs et musulmans dans le Maghreb, en tout cas avant la décolonisation. Ce temps-là est révolu pour vous?
Pas du tout. J'ai perdu aucun ami musulman, arabe ou iranien depuis le 7 octobre. La proximité qu'on a nourrit un terrain de discussion extraordinaire en France et c'est une chance. On est un pays en paix, on est un lieu pour imaginer l'avenir. Et le Maghreb a beaucoup à enseigner au Proche-Orient puisque le Maghreb, c'est une terre qui a été 1000 fois colonisée et qui a su se réinventer et réinventer la manière de se raconter. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir dans le Maghreb et j'ai un petit espoir dans l'avenir.
Un petit espoir dans l'avenir, mais quand même, quand on est comme vous, un militant de la paix, on vit en ce moment des heures difficiles. Donc qu'est-ce qui vous fait croire profondément, intimement, qu'il y a une lumière au bout du tunnel?
Moi, il me semble que dès qu'on dépasse les 2 ou 3 minutes de slogan, quand les gens s'asseyent et discutent, il y a des choses assez intéressantes à utiliser. Simplement, il faut dépasser les 2 ou 3 minutes de cri du moment où on se rencontre. C'est difficile de haïr son prochain les yeux dans les yeux. Les insultes que je reçois sur Internet, je les ai beaucoup moins dans la vie. J'espère que ça va durer.
En tout cas, vous ne les aurez pas ni ici, ni sur d'autres plateaux. Nous vivons, enquête sur l'avenir des Juifs. On y rit, on y pleure aussi. L'humour n'est jamais totalement absent. Je le recommande